24h à Paris, 2h en temps universel. Vous êtes à l'écoute de la Radio du Monde.
Antoine Galen.
À la une, ce drame à Nantes, un jeune homme a tué une lycéenne et blessé trois autres dans une attaque au couteau au sein du collège-lycée privé Notre-Dame de Toutes Aides. L'enquête est en cours. La Crimée est au cœur des négociations pour un cessez-le-feu en Ukraine. Volodymyr Zelensky ne veut pas laisser la région à Vladimir Poutine comme le propose Washington. La Crimée constitue un atout stratégique, vous l'entendrez. Dans ce journal également, en Côte d'Ivoire, après la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale par le tribunal, le PDCI peine à mobiliser ses militants. Et puis l'agence sanitaire française alerte sur les effets néfastes des pesticides sur la santé des enfants. Sidération après cette attaque au couteau dans un établissement à Nantes. Une élève poignardée est décédée et trois autres sont grièvement blessés. Cela s'est déroulé dans l'établissement de Notre-Dame de Toutes Aides dans l'ouest de la France. Le suspect a été hospitalisé après un examen psychiatrique. Pendant ce temps, l'enquête continue. On écoute Christophe Miette, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure.
L'enquête en cours qui a débuté avec des prélèvements ont été faits. On sait également que des perquisitions vont avoir lieu à son domicile. Son entourage va être auditionné également. L'exploitation de tous les réseaux numériques sur lesquels il a pu se rendre va être faite. Une cyber-enquête va être faite sur son téléphone, ordinateur et les différents réseaux qu'il a pu utiliser. Il va avoir aussi, et ça a débuté avec les lycéens et le personnel d'établissement qui ont été confinés, une première vague d'enquête et d'enquêteurs ont été réalisés au niveau de l'établissement pour essayer de récolter les premiers éléments d'enquête de voisinage, comme on appelle, savoir s'il s'était confié sur ce parcours criminel, savoir s'il s'était confié sur ses intentions et la manière de faire, ou savoir s'il avait des griefs avec d'autres personnes. Donc c'est tout ça qui est en train d'être remonté.
Christophe Miette, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, des propos recueillis par Sylvie Coffi. En réaction, le Premier ministre François Bayrou demande une intensification des contrôles mis en place aux abords et au sein des établissements scolaires. Et sous 4 semaines, des propositions concrètes autour des violences commises par des mineurs avec des armes blanches. 12 morts et plus de 90 blessés à Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi. Des bombardements russes qui montrent qu'un cessez-le-feu est encore loin. La Crimée, un territoire perdu pour l'Ukraine, selon Donald Trump. Le président américain ne cesse de faire pression sur Volodymyr Zelensky, laissant entendre qu'un accord de paix avec la Russie se rapproche, mais qu'il lui manque le feu vert de Kiev. La question de cette péninsule annexée en 2014 par la Russie est cruciale. Le président ukrainien l'a rappelé à nouveau mardi. Il n'y a rien à discuter, car la Crimée a surtout un intérêt stratégique. Explication avec Cyril Brett, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, spécialisé sur l'Europe centrale et orientale et sur la Russie.
La Crimée, c'est la péninsule qui permet le contrôle stratégique d'à peu près toute la zone de la mer Noire et qui est placée sur tous les grands itinéraires de transit maritime et de transit aérien. Qui contrôle la Crimée contrôle la mer Noire. Et c'est pour ça que pour la Russie et pour l'Ukraine, la maîtrise de la Crimée, le rétablissement de la souveraineté ukrainienne sur la Crimée est stratégiquement aussi importante.
Cyril Brett, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, propos recueillis par Alice Roussard. Direction Gaza, où l'ONU dénonce une situation humanitaire qui serait actuellement la pire depuis le début de la guerre. L'État hébreu bloque l'aide humanitaire aux frontières depuis près de 2 mois et menace de lancer une offensive plus vaste dans l'enclave si les otages n'étaient pas libérés du territoire palestinien. Ce jeudi, au moins 55 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza par des frappes israéliennes. Téhéran se dit prêt à se rendre à Berlin, Paris et Londres pour discuter du nucléaire. L'Iran discute avec les États-Unis depuis le 12 avril sous médiation omanaise. L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, rencontrera d'ailleurs les Iraniens samedi à Oman, la 3e rencontre en quelques semaines. De leur côté, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni n'ont jusque-là pas été directement impliqués dans les nouvelles tractations. Mais Téhéran aimerait discuter avec les 3 pays européens car ils ont la possibilité de réimposer les sanctions de l'ONU contre l'Iran pour les empêcher de se doter de l'arme nucléaire. En Côte d'Ivoire, deux jours après la décision du tribunal d'ordonner la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale, son parti peine à mobiliser ses militants pour exiger la réintégration de son candidat à la présidentielle d'octobre. Des marches étaient prévues dans le pays, mais elles ont eu très peu d'écho. Reportage Binetta Diagne.
Dès 8h, les principales artères qui entourent le palais de justice sont bouclées par les forces de sécurité. Pendant ce temps-là, dans le tribunal, les audiences se tiennent normalement. Première affaire inscrite au rôle, Valérie Yapo contre Tidjane Thiam. Cette cadre du PDCI qui avait été sanctionnée par son parti conteste la légalité de son élection à la tête du PDCI lors du congrès de décembre 2023, comme l'explique son avocat, Maître Gérard Nguetta.
Le président qui a été élu au PDCI n'était pas habilité, compte tenu du fait qu'il soit français, à diriger ce parti et à faire prendre une décision d'exclusion de notre cliente. Et c'est cette décision que nous sommes venus attaquer devant le tribunal sur le fond.
L'affaire est renvoyée au 8 mai. Quelques ruelles plus loin, les militants du PDCI arrivent au compte-gouttes, à la permanence du parti, toujours motivés à exiger la réintégration de leur candidat.
S'il n'y a pas l'homme de Tidjane sur la liste, on ne peut pas mettre l'homme de quelqu'un d'autre sur la liste. Parce que c'est Tidjane Thiam qui le présente.
Mais le retard et la faible mobilisation poussent les organisateurs à revoir leur programme. Simon Doho, le président du groupe parlementaire du PDCI.
Nous avons décidé en toute responsabilité de reporter pour suivre l'actualité. Le 8 mai, il y aura une nouvelle séance. Nous serons présents. C'est un combat de longue haleine dans lequel nous sommes engagés.
Tidjane Thiam, le président du parti, suit ces événements de loin, en France, où il séjourne depuis quelques semaines. Binta Diagne, Abidjan. RFI.
À Madagascar, Emmanuel Macron veut créer les conditions du pardon pour la colonisation. Le président français a terminé sa tournée dans l'océan Indien. Il était à Madagascar ce jeudi et a annoncé la création d'une commission mixte d'historiens. L'objectif est de travailler sur les atrocités commises à l'époque par l'armée française lors de l'insurrection de 1947. Des dizaines de milliers de Malgaches avaient été tués. L'agence sanitaire française tire la sonnette d'alarme. Elle dénonce ce jeudi les effets néfastes de deux familles de pesticides sur la santé, notamment des enfants. Ces signaux sanitaires concernent les produits organophosphorés, interdits en France mais encore autorisés dans l'UE jusqu'en 2026. Ils peuvent entraîner un risque accru de troubles moteurs, cognitifs et sensoriels pour les plus petits. Mais l'alerte porte surtout sur la trentaine d'insecticides pyréthrinoïdes encore très utilisés en agriculture et dans l'univers domestique. Lucille Gimbert.
À la maison, les pyréthrinoïdes sont présents dans les bombes insecticides, dans les prises anti-moustiques, dans les lotions anti-poux ou encore dans les produits anti-puces pour les animaux. Problème, l'exposition à ces pesticides entraîne un risque accru de troubles du comportement pour les enfants à naître et pour les nourrissons et un risque accru de troubles de la fertilité et de cancer pour les adultes. L'agence sanitaire recommande donc de réduire leur usage au strict nécessaire. Mathieu Schuller de l'ANSES.
C'est très différent de se dire je suis dans une situation comparable à nos concitoyens à La Réunion et il faut se protéger des moustiques qui sont porteurs de dengue versus j'ai quelques araignées ou quelques insectes chez moi.
Quant à l'usage de ces insecticides dans les champs, l'agence sanitaire appelle à faire remonter automatiquement au niveau national les informations compilées par les agriculteurs dans leur cahier de traitement. Quelle substance a été appliquée, où, quand et en quelle quantité. Pour le moment, ces données restent dans les fermes et ne sont conservées que 5 ans.
Nous, ce qui nous intéresserait, c'est lorsqu'il y a un cluster de maladies qui est signalée dans une région, et ça arrive régulièrement. Quels sont les usages réels qui ont eu lieu et est-ce qu'on peut les mettre en regard? Et ça permettrait de conclure clairement et rapidement dans un sens comme dans un autre.
La Commission européenne avait poussé un projet de règlement en ce sens au sein du Pacte vert, mais face aux réticences agricoles, il a été rejeté par les eurodéputés en 2023.
Face aux suppressions de postes chez ArcelorMittal, l'État français appelé à réagir. 600 postes vont être supprimés dans le nord de la France. Une annonce qui a fait du bruit ce mercredi. Des voix de gauche et des syndicalistes ont exhorté l'État à entrer au capital de l'entreprise. Le deuxième sidérurgiste mondial avait annoncé en février qu'il envisageait la délocalisation de certaines de ses activités européennes en Inde. Et puis, c'est un livre accablant. Le silence de Betaram est sorti aujourd'hui dans les librairies. L'ouvrage regroupe les témoignages de plusieurs dizaines d'anciens élèves qui ont subi des violences physiques et sexuelles à Notre-Dame de Betaram, un établissement du sud-ouest de la France, et ce, pendant des décennies. Hélène Perlon, la fille du Premier ministre, a affirmé qu'elle avait été victime.